La Ligue et vous sur Radio Plus, une émission proposée par la Ligue de l'enseignement du Pas-de-Calais. Le mois dernier, on vous parlait de la 8e semaine de la fraternité, temps fort associatif qui a lieu du 18 au 26 mars dans tout le Pas-de-Calais. Aujourd'hui, la parole est aux associations qui ont accepté de revenir avec nous sur leurs initiatives. Nous recevrons donc Michael Caron, président des associations Adalec et Dexida, mais également vice-président de la Ligue de l'enseignement du Pas-de-Calais, qui pourra nous parler plus en détail de la signification de l'événement. Nous recevrons également les représentants de la coopérative des savoirs de Saint-Paul-sur-Ternoise qui viendront discuter avec nous des initiatives ayant eu lieu dans cette même ville. Mais pour commencer cette émission, nous nous sommes rendus aux événements organisés par les associations pour qu'ils nous parlent de leurs actions, mais aussi avec une question en tête, qu'est-ce que la fraternité ? On les écoute tout de suite.
La semaine départementale Fête la fraternité a été l'occasion pour les associations affiliées à la Ligue de l'enseignement du Pas-de-Calais de mettre en avant lors d'un événement qu'elles ont organisé pour cette semaine les valeurs qu'elles portent tout au long de l'année. Ici et là, dans tout le Pas-de-Calais, spectacles, ateliers, concerts, débats, des activités toujours plus nombreuses et variées. Nous avons rencontré certaines de ces associations pour nous parler de leurs projets. Mais d'abord, voyons ensemble ce qu'est la Semaine de la Fraternité. Sébastien Brioul, chargé de mission Vie Fédérative pour la Ligue de l'Enseignement du Pas-de-Calais et coordinateur du projet, définit ce temps fort ainsi.
Donc c'est de rassembler l'ensemble des initiatives qu'il puisse avoir sur le département et donc des acteurs locaux et de l'ensemble des personnes qui œuvrent au quotidien, que ça ne reste pas uniquement et seulement sur les frontons des bâtiments publics, mais c'est rendre visible l'ensemble des actions qui se réalisent donc au quotidien et donc le mettre durant la semaine de lutte contre la discrimination. Et c'est pour ça qu'on appelle ça la semaine fête la fraternité.
Concrètement, ce sont 165 projets menés par presque autant d'associations. À la Cité des électriciens de Bruay-la-Buissière, par exemple, on a eu l'occasion de parler jardinage avec Benoît, volontaire en service civique, et Christine, sa jardinière médiatrice.
Moi, je m'appelle Benoît, donc je suis en service civique à la Cité des électriciens. Donc, la Cité des électriciens, c'est la plus ancienne cité minière du Pas-de-Calais. Et aujourd'hui, elle a été réhabilitée en centre culturel.
Bonjour, moi c'est Christine Maillard, je suis la jardinière médiatrice de la Cité des électriciens. Et voilà, je m'occupe de toutes les parcelles de jardin et j'ai le plaisir de travailler maintenant avec Benoît pour quelques mois, dans notamment le désherbage du site avant la plantation de légumes et de fleurs qui donneront une petite idée de la présence des mineurs étrangers étant venus travailler sur le secteur du bassin minier et auquel on va rendre hommage à travers les légumes et les plantes qui y pousseront.
Pour la semaine de la fraternité, on s'occupe dans un premier temps donc de désherber les jardins et ensuite on invite donc plusieurs groupes, donc des jeunes ou après des personnes qui nous suivent depuis un petit moment sur la cité, donc à venir nous aider à désherber et ensuite à planter les jardins.
Sur le site, l'intérêt aussi à la Cité des électriciens, c'est que on est un mélange de population et de public, donc on aime beaucoup quand les jeunes rencontrent les moins jeunes et apprennent plein de choses aussi au contact notamment des jardiniers ou des passionnés de potager, etc. Donc le principe aussi ici sur le site, c'est l'échange dans tous les domaines. Qui dit étranger dit aussi sur la cité comme ailleurs partage, échange, respect des autres, donc la semaine de la fraternité, voilà, on avait quand même ce thème-là qui ressortait aussi chez nous. Donc voilà pourquoi on a monté le projet ensemble.
Pour moi, la notion de fraternité, c'est surtout aussi du coup l'entraide entre les différentes nationalités qui sont venues. Donc on a des mineurs qui sont venus de plusieurs pays, qui ne parlent pas forcément la même langue, qui n'ont pas forcément la même culture, mais qui, en arrivant ici à la cité, se sont tous regroupés pour un but commun et ils se sont aidés les uns les autres à améliorer leur quotidien.
Au CAJ de Noyelles-Godeau, ce sont les jeunes qui prennent la parole. Au programme, la réalisation d'une œuvre collective qui dénonce le harcèlement. Marie, la responsable de l'événement, nous en parle ici.
Je m'appelle Marie, je suis directrice du CAJ de Noyelles-Godeau et on accueille donc les 11-17 ans. Donc on travaille sur la lutte contre le harcèlement scolaire. On a réalisé un clip vidéo. On a travaillé avec les primaires du centre du mercredi, donc ils ont travaillé sur le mot harcèlement et ce qu'il faut faire et ne pas faire. Il y a eu des photos réalisées sous forme d'affiches et donc on organise un débat également avec une association qui lutte contre le harcèlement. On est ensemble, on est différents, mais chacun porte pour l'autre. Voilà.
L'association Second Départ a quant à elle organisé un groupe de parole où les participants ont échangé autour d'un goûter qu'ils avaient eux-mêmes préparé. Un moment simple et convivial dont le but était de favoriser la solidarité et l'estime de soi.
Moi c'est Bouton Michel, voilà, je suis membre actif de l'association Second Départ, vice-président de cette association qui a pour but de venir en aide aux malades de l'alcool, aux familles et au niveau des stupéfiants également, enfin de tout ce qui est addiction. Cette association donc a des permanences dans divers endroits du Pas-de-Calais ainsi que des groupes de parole. Avec aussi également des interventions dans les milieux hospitaliers tels que le PSM Saint-Venant, les Érables et Nabomont, très prochainement sur Rochelle également.
Quel est l'objectif du coup de l'événement que vous organisez aujourd'hui dans le cadre de la Semaine de la Fraternité?
Alors dans le cadre de la Semaine de la Fraternité, pour nous l'objectif c'est de montrer aux personnes que l'alcool peut concerner toutes sortes de personnes, que ce soit alors au niveau professionnel, mais aussi au niveau des peuples qui sont différents en fin de compte. N'importe qui peut être touché par cette maladie d'alcool.
Qu'est-ce que vous pensez que l'association peut apporter à ces personnes?
Alors elle peut apporter une aide toute particulière dans le but de les accompagner. J'étais consommateur d'alcool aussi, donc quand on consomme on ne sait plus où on en est, donc on est là pour les accompagner, pour les aider, pour les orienter, pour établir un contact avec le milieu médical et les engager sur une voie, je dis pas de guérison parce qu'on n'est jamais guéri, mais sur un chemin d'abstinence à l'alcool.
Donc bonjour, moi c'est Emeline, donc je fais mon service civique dans l'association Second Départ depuis octobre. En fait j'ai une mission de prévention auprès des jeunes, donc j'interviens auprès de la garantie jeune à Béthune, j'interviens dans les centres hospitaliers comme Arras et Nabomont, Saint-Venant. J'anime également des groupes de parole, des ateliers de créativité. L'activité de l'association, c'est vraiment faire de la prévention au niveau de l'alcool. Enfin, à la base, on est ciblé pour l'alcool, mais maintenant, on s'est étendu aussi sur les drogues parce que on s'est rendu compte que tout le monde, enfin, touche un peu plus à tout qu'auparavant. C'est vraiment dire de pouvoir aider les personnes malades et les familles. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important dans l'association. Je voulais passer un moment convivial et un moment de partage. De ce fait, j'ai eu l'idée de faire un goûter partagé, donc c'est-à-dire que les personnes pouvaient ramener ce qu'elles souhaitaient, que ce soit des petits biscuits, des paquets ou des gâteaux faits maison. Et on partage ce moment tous ensemble, dans une bonne entente. On parle bien forcément de la maladie aussi, mais tout en ayant sous la main un petit bout de gâteau, une tasse de café et dans la joie et la bonne humeur. Pour moi, la fraternité, ça signifie beaucoup dans le sens où être fraternel, c'est être proche d'une personne, en le considérer comme son frère ou sa... Enfin, pour moi, c'est ça, le considérer comme son frère ou sa sœur. C'est aider les personnes qui sont dans le besoin et qui ont besoin, là, maintenant, d'avoir un soutien, peu importe lequel, et pouvoir être épaulé.
Le Conseil citoyen de Libercourt a lui permis à des enfants de partager et d'apprendre sur la notion de fraternité, en réalisant un dessin représentant cette valeur républicaine. Une des jeunes artistes nous parle de son œuvre.
Est-ce que tu peux me dire ce que tu as dessiné?
J'ai dessiné des maisons et il y avait quelqu'un qui venait parce que c'était des gens qui n'avaient pas à manger et qui étaient réfugiés et qu'il y avait des gens qui ramenaient des choses pour manger, pour se nettoyer et tout ça.
C'est un dessin sur la fraternité, c'est ça?
Oui.
Et c'est quoi la fraternité?
C'est être ensemble, s'aider quand on est tout seul. Si on n'a pas de goûter, on peut en donner un petit peu. S'attendre. Et voilà.
Cette semaine exceptionnelle, qui a lieu chaque année depuis désormais 8 ans, à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, a donc permis de célébrer la fraternité à travers des initiatives militantes et diversifiées.
De retour avec nous dans La Ligue et vous, nous recevons Michael Caron. Bonjour Michael.
Bonjour à tous.
Vous êtes président des associations Adalec et Décida et vice-président de la Ligue de l'enseignement. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous pouvez nous présenter l'activité des associations Adalec et Décida?
Alors, l'ADALEC est portée plus vers l'éducation, la culture et aussi l'animation locale. Nous avons une activité principale à l'ADALEC, il s'agit des groupes théâtre. On a 3 groupes d'enfants et un groupe intergénérationnel, c'est-à-dire qu'il y a des adultes, des adolescents et même des enfants dans ce groupe-là, avec aussi quelques personnes qui sont en difficulté personnelle. Et donc, ça fait un groupe très, 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 très sympa. Et au bout de la saison, le 24 mai à Devoin, nous allons présenter la restitution des travaux de ces différents groupes. Au sein de la DALEC, on a aussi un programme d'activités assez varié, parce que ça peut varier. Par exemple, en avril, nous allons organiser ce qu'on appelle le Charivari des Mômes, c'est une après-midi festive, et aussi une semaine extra-littéraire au centre multimédia sur le thème de la littérature africaine. Pour Décida, c'est plus l'éducation à la citoyenneté. Avec, on a élargi un petit peu notre objet désormais, puisque on a une action en matière de prévention santé. À cet effet, on a créé une section de randonnée pédestre qui a pris beaucoup d'ampleur. On est une trentaine de membres, avec une philosophie toute simple, c'est que la randonnée soit accessible au plus grand nombre possible. Et que les randonnées soient diversifiées, alors diversifiées à la fois sur le plan du paysage, mais aussi de l'architecture, et avec une connotation culturelle dans les randonnées. Et depuis février, on a mis en place un atelier sport-prévention-santé avec de la gymnastique adaptée. Donc là, on est en phase expérimentale, mais ça commence à bien prendre et on espère pérenniser cet atelier en septembre.
On espère aussi. Du coup, quels événements vous avez organisés dans le cadre de la semaine de la fraternité?
Alors, en ce qui concerne la DALEC, nous avons organisé le goûter de la fraternité. Donc on a invité à la fois les jeunes de nos groupes théâtre, et aussi avec le comité d'Ouvrenois du Secours Populaire Français, on a invité les enfants des familles aidées par cette association qui est présidée par Madame Yolande Houyer. Et pour Décida, nous avons organisé une exposition-conférence sur le thème « La pauvreté est-elle inéductable ?» avec l'idée de proposer à nos invités une vision globale de tout ce que engendre la pauvreté, aussi bien sur le niveau des revenus, du manque de revenus, mais aussi la difficulté d'avoir accès au logement, à la santé et à la citoyenneté, ainsi qu'à la culture.
Quel type d'œuvre on a pu voir lors de cette exposition?
Alors, nous avons essayé d'être le plus pédagogique possible. D'abord, il y a eu une partie des panneaux d'exposition qui présentaient les chiffres clés, à la fois en France et dans le monde de la pauvreté. Et ensuite, on a décliné justement tous les aspects que revêtait la pauvreté, aussi bien le logement, la santé, la citoyenneté. C'est-à-dire que dans mon discours, j'ai dit que lorsqu'on était pauvre, finalement, on était considéré comme un citoyen de seconde zone. J'ai même exprimé ma propre expérience, parce qu'il y a une époque, moi-même, j'étais et ma famille était dans la pauvreté. Donc, j'ai dit avec un peu d'humour que j'avais une certaine expérience en la matière. J'ai constaté qu'être pauvre, ce n'est pas simplement manquer de revenus, il y avait des implications dans tous les domaines de la vie quotidienne.
C'est une problématique qui est importante, surtout en ce moment.
Justement, hier, j'ai encore lu un article dans la presse où les inégalités en France étaient toujours aussi importantes qu'il y a encore 30 ans et étaient même en progression dans certaines régions, bien que il faut bien l'avouer que le modèle social français empêche moins de pauvreté que par exemple en Allemagne ou en Grande-Bretagne.
Du coup, qui a élaboré ce qui a été exposé lors de cette exposition?
Alors, on a une règle, que ce soit à la DALEC ou à Décida, c'est que nous élaborons nous-mêmes nos panneaux d'exposition. Donc, c'est de A jusqu'à Z, que ce soit la collecte d'informations, ensuite le traitement de l'information, la restitution et la plastique. Enfin, tout le côté matériel, c'est de A jusqu'à Z, c'est élaboré.
Tout a été fait maison.
Voilà. Disons que à la DALEC et à Décida, on se considère comme des artisans de la vie associative.
Et comment ont réagi les participants aux expositions?
Alors, pour l'exposition-conférence, il y a eu de l'émotion à un moment donné, puisqu'on a aussi diffusé un extrait d'un documentaire de portrait de sans domicile fixe. Et donc, on a choisi le portrait d'une dame d'une cinquantaine d'années qui se retrouvait à la rue, qui avait des problèmes habituels chez les sans domicile fixe, d'alcool, disons que c'est une spirale infernale, hein, et que beaucoup de sans domicile fixe connaissent les mêmes types de problèmes. Et à un moment donné, il y a les journalistes, les documentaristes de ce document qui ont fait appel à un ancien collègue de travail de cette femme. Donc on a vu la rencontre qu'il pouvait y avoir, hein, et l'émotion entre la sans domicile fixe et son ancienne collègue de travail qui finalement s'est engagée à la fin de ce documentaire à l'aider à retrouver, le chemin qu'elle aurait perdu, mais de l'aider à se retrouver elle-même.
D'accord. Et je voudrais revenir sur le deuxième événement, celui d'Adalec. Oui. Quelle était l'idée derrière le goûter de la fraternité que vous avez organisé ?
Une idée toute simple. C'est au sein des groupes théâtre de l'Adalec, on a un profil sociologique quand même assez homogène, même si on a aussi des enfants de familles d'employés, d'ouvriers, mais on a aussi beaucoup d'enfants, de classe aisée. On peut dire ça comme ça. Et on voulait provoquer la rencontre avec d'enfants de milieux défavorisés. Parce que je considère, et on doit être beaucoup à considérer, que ce soit parmi les adultes ou les enfants, il y a de moins en moins d'endroits où on peut se rencontrer, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle ou socio-culturelle. Donc c'était provoquer la rencontre dans un cadre ludique de différents profils d'enfants.
Et comment ça s'est passé entre les enfants ?
Ça se passe naturellement bien. Disons qu'il n'y a pas, par rapport aux adultes, où il n'y a pas de glace à briser, ça se passe immédiatement, la rencontre...
Moins de malaise.
Ouais.
Qui a été associé à l'organisation de ces deux événements ?
Alors, on a fait pour l'Adalec, comme je vous le disais tout à l'heure, on a demandé le partenariat du Comité de Brunois du Secours Populaire Français. On travaille avec eux chaque année parce qu'on organise une sortie éducative et ludique avec des enfants justement de familles démunies. Donc on traite avec le Secours Populaire pour qu'ils choisissent des enfants et que nous prenons en charge pendant cette sortie. Et pour l'association Décida, on a demandé à ce que une nouvelle association de Brunoise qui s'appelle Charité Solidaire vienne témoigner, et son président Pierrick Desmanières est venu témoigner sur les maraudes qu'il organise régulièrement à Lens, Béthune ou Arras.
D'accord. J'ai une question plus générale pour vous. Oui. Pourquoi était-ce important de participer à la semaine de la fraternité ?
J'embête les gens en disant que pour nous, à l'Adalec et à Décida, on ne produit pas d'activité pour l'activité. Il faut toujours qu'il y ait un sens dans nos activités et dans nos actions. On ne conçoit pas la vie associative autrement. Donc, pas mal de monde le comprend, d'autres un peu moins. Et donc, affilié à la Ligue de l'enseignement, puisque on y est affilié aussi pour défendre ensemble certaines valeurs, on s'est dit que s'inscrire dans les semaines de départementales, que ce soit la fraternité et la laïcité, c'était tout naturel pour nous. Et d'ailleurs, disons que c'est aussi une date repère dans nos programmes d'activités annuelles.
Vous venez de parler de la semaine de la laïcité. J'avais une question. On avait eu l'occasion d'échanger sur cette semaine. Pour vous, est-ce que c'est quelque chose de commun d'associer la laïcité et la fraternité ?
Ce sont deux notions assez, je dirais pas assez imparables, mais très importantes à unir l'une à l'autre. La fraternité, si on veut se rapprocher des uns et des autres, il faut se faire fi parfois des différences, et des différences qui peuvent être religieuses. Alors, faire fi, c'est pas dire ranger dans un tiroir, mais les dépasser pour que finalement on se retrouve sur le plus commun des sentiments, qui est de venir en aide aux autres.
Merci Mickaël Caron. On se retrouve tout à l'heure pour dresser un petit bilan de la semaine de la fraternité. Et quant à nous, on va se retrouver après une petite pause musicale. À tout à l'heure.
The first kick that took us when I hit the ground.
De retour avec nous dans La Ligue et vous, nous recevons Claire et Laetitia, représentantes d'un collectif d'associations de Saint-Paul-sur-Ternoise. Bonjour Claire, bonjour Laetitia.
Bonjour.
Alors, la première question que je peux vous poser, c'est comment s'est déroulée la semaine de la fraternité sur Saint-Paul ?
Alors,
très bien.
On a vraiment passé une super semaine, franchement.
Ouais, c'est vrai ?
Ouais.
Est-ce que vous pouvez nous parler déjà des associations que vous représentez ?
Alors, on représente donc un collectif d'assos. La première, c'est Cadabra, qui est une asso d'insertion sociale et qui porte une action qui s'appelle la coopérative des savoirs. Et de cette copée est née pas mal d'assos périphériques. Donc on a l'association Territoire en Marche, qui est une association qui aide à faire découvrir le territoire du Ternois avec des balades en âne. On a l'association Copsi Copsa, qui fait de la, en fait, qui marche beaucoup sur du don, qui a une boutique solidaire, parce qu'on revend tout ce qu'on a, ce qu'on remet en état, donc des meubles, des vêtements, des bibelots à moindre coût.
Est-ce que vous pouvez vous rapprocher un tout petit peu du micro ?
On a l'association Léa, qui est une association de parentalité, donc organise entre autres des ateliers le mercredi après-midi entre les parents et les enfants. Mm-hmm. On a l'association Loutre du Chels, qui est une association qui est là pour créer un café solidaire citoyen et culturel sur Saint-Paul-sur-Ternoise.
Alors, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu ce qu'est un café citoyen et solidaire ? Alors, culturel et solidaire, pardon.
Un café culturel, citoyen et solidaire, en fait, c'est un café parce qu'on vient sur place, donc franchement, pour consommer normalement. Et on se retrouve avec des expositions, du théâtre, des livres. Surtout, nous, ça sera beaucoup sur les livres, parce qu'on aime bien ça. Ouais. Donc, la partie citoyenne, c'est vraiment parce qu'on a envie de faire bouger le territoire sur lequel on est. Donc, en l'occurrence, Saint-Paul-sur-Ternoise. Et la partie solidaire, c'est qu'on travaillera beaucoup sur du circuit court, beaucoup sur du producteur locaux, sur des produits bio. Et on sera là forcément pour aussi aider les gens qui ont besoin de coups de main dans leur démarche administrative.
Vous venez de parler de votre passion pour les livres. Un de vos événements s'appelait justement Eva Livre. Quel était le but de cet événement ?
Alors, le but de l'événement, c'était de faire des livres voyageurs. C'est-à-dire qu'on a récupéré pas mal de livres au cours des semaines avant pour réussir à les... en don, toujours pareil. Hein. Mm-hmm. Donc, on les a plastifiés. Et le but, c'était de les mettre un peu partout. Donc, dans Saint-Paul, là, il y en a un qui a atterri à Marseille, il n'y a pas longtemps, hier, je crois.
Et il a été pris deux minutes plus tard.
Il a bien voyagé.
Ouais, celui-là a déjà bien voyagé. Donc, on les laisse, on les abandonne quelque part dans un coin. Et les gens doivent les prendre, les lire et les remettre autre part, en fait. Mm-hmm. Et le but, c'est que le livre fasse le tour de la France, du monde, sait-on jamais, avec un petit peu de chance un jour. Hein.
Ça peut arriver.
Voilà. Et qu'on ait des nouvelles régulièrement du livre pour voir où est-ce qu'il est parti, en fait. C'est faire voyager la lecture et à donner l'accessibilité aux livres qui ne sont pas toujours faciles à avoir.
Ah, c'est une très belle initiative. Quels autres événements ont été mis en place sur Saint-Paul-sur-Ternoise ?
Beaucoup.
Beaucoup, beaucoup d'événements.
On va essayer d'aller en ordre pour ne pas en oublier. Donc, pour Copsi Copsa, en fait, on avait fait... Pour Copsi Copsa, on avait fait un colis fraternel. Donc on avait récolté des produits de première nécessité, tout ce qui est protection périodique, rasoir, shampoing, oui, etc. On a été le remettre en fait à l'association d'aide aux sans-abri de l'abbaye de Belleval, qui est juste à côté de Saint-Paul en fait, mm-hmm, qui a été un très beau moment parce qu'ils nous ont accueillis avec des gâteaux faits maison et tout, un beau moment. Mm-hmm. Je pense qu'il y aura encore des échanges par la suite, oui, d'ailleurs. Le mercredi donc après-midi, c'était l'association Léa, parentalité, mm-hmm, donc eux ils avaient reçu en fait la vie active de Nédonchel. Donc, c'était un moment d'échange entre parents et enfants, donc de l'association et parents et enfants migrants de Nédonchel. Donc, ils ont fait des activités créatives, ils ont fait des petites photos, ils sont partis avec un petit cadre et des beaux moments d'échange. Et la barrière de la langue est très, très vite tombée et je pense que le partenariat va aussi continuer. D'ailleurs, à la fin du mois, ils y retournent et ils vont faire ça une fois par mois. Le jeudi matin, donc avec Territoire en Marche et Nouchka, un des deux ânes, parce que Gaïa a fait sa tête de mule, n'a pas voulu descendre. On a fait la balade des fiertés, donc pour LGBTQ, en fait, pour montrer que peu importe son orientation sexuelle ou ses différences, etc., il n'y a pas de raison d'avoir honte, on est tous humains. Donc, ça s'est très très bien passé, ça a été bien accueilli, on a même été un peu surpris, mais c'était super.
C'est mal accueilli d'habitude ?
Disons qu'avoir choisi le public LGBT, on avait peur dans Saint-Paul quand même. Voilà, que ça soit un petit peu mal accueilli, mais finalement, c'est très bien passé. On a eu des bons retours. Limite, les gens, il faudrait qu'on en refasse. on verra bien. Donc, le vendredi au soir, on a eu donc, l'association Cadabra qui a fait un melting pot à la Maison pour tous, toujours à Saint-Paul. Donc là, c'était en fait des recettes du monde et de la musique du monde pour découvrir vraiment les différentes cultures. On a eu entre autres du couscous, de l'harira, du hachis parmentier, de la pizza, un peu de tout. Et donc le samedi, on a fini avec les loutres du Chaise, donc la préparation des livres voyageurs, donc les plastifier, mettre les étiquettes et en déposer dans l'après-midi. Voilà.
Beaucoup de vos événements avaient pour sujet l'accès à la culture. Est-ce que, pour vous, c'est quelque chose qui a à voir avec la notion de fraternité, cet accès à la culture ?
Bah, je pense que la culture, c'est l'ouverture aux autres, en fait, simplement, parce que la culture, c'est prendre le temps d'écouter ce que les gens ont fait, ce que les gens disent, comment les gens vivent. Donc pour moi, oui, c'est l'accès aux autres, c'est l'ouverture, donc forcément, ça a un rapport à la fraternité.
C'est quelque chose de compliqué à Saint-Paul, l'accès à la culture ?
Bah, sur certains côtés, oui. Alors, on a quand même quelques infrastructures qui sont là pour aider, hein. On n'est pas sans rien, mais c'est vrai que parfois, c'est compliqué d'avoir accès ne serait-ce qu'aux livres. C'est pour ça qu'on a fait les livres voyageurs chez les Doutres. Donc, il y a certaines parties de la culture qui est vraiment compliquée, parce que c'est vraiment compliqué d'accès.
Saint-Paul est une ville très impliquée dans la semaine de la fraternité. À quoi c'est dû ?
À nous ?
À vous ?
Non,
est-ce que c'est un besoin ? Est-ce que c'est une
nécessité ? Nous, dans notre collectif d'assaut, c'est vraiment des valeurs qu'on porte au quotidien, la fraternité, l'ouverture aux autres, l'acceptation de tout le monde, en fait. Mm-hmm. Donc pour nous, quand la ligne de l'enseignement fait cette semaine, c'est plus que normal qu'on en fasse partie, qu'on soit là vraiment sur toute la semaine, hein. Donc pour nous, c'est vraiment super important, en fait.
Et c'est quelque chose que vous allez continuer
qu'on va continuer, ouais. On sera encore là les années suivantes, il n'y a pas de problème.
Et si vous deviez dresser un bilan de la semaine de la fraternité sur Saint-Paul, sur Ternoise, qu'est-ce que ça a apporté ?
Alors, je pense que ça a apporté la possibilité de voir, en fait, simplement. Le problème, pas particulièrement de Saint-Paul, mais de beaucoup de choses, c'est qu'on a tendance à ne pas voir les gens, en fait. On n'a pas autant tendance à se cacher derrière les gens qu'on connaît, parce que l'inconnu fait peur, en fait. Donc nous, avec nos actions, on a dit, vous avez peur d'y aller, donc on va venir vers vous, on va vous amener la culture, on va vous amener le métissage, on va vous amener les gens que vous n'avez pas l'habitude de rencontrer, parce que ça fait un peu peur, quelque part, en fait, l'inconnu. Donc je pense que ça a apporté ça.
Et ça a été bien accueilli, cet accès à la diversité, en fait ? C'est quelque chose...
On a eu des super retours, vraiment. On a eu des gens qui sont venus nous voir, nous demander ce qu'on faisait, qui on était, et pourquoi on faisait ça. Et ça a amené à quelques discussions franchement intéressantes.
Et donc, la semaine de la fraternité, ça peut servir au développement des structures sur Saint-Paul, en fait. Enfin, à la connaissance de ces structures.
Oui, ça nous aide aussi, forcément. On se donne une visibilité aussi quand on fait des activités en dehors de l'endroit où on travaille à l'heure actuelle. Donc franchement, ouais, ça nous donne aussi une visibilité sur l'ensemble de la ville, ce qui n'est pas forcément le cas tout le temps.
J'ai une dernière question pour vous. Si vous deviez résumer la notion de fraternité, chacune peut apporter une réponse personnelle, mais vous diriez quoi ?
Et le vivre ensemble.
Juste le vivre ensemble ?
Le vivre ensemble en respectant les différences de chacun. Parce que voilà, on a tous des différences, mais il n'y a pas de raison. Une fois qu'on respecte l'autre, on peut tout à fait vivre ensemble, en fait.
Ouais, je vais partir un peu sur la même chose, c'est vraiment l'acceptation des autres sans porter aucun jugement et juste vivre avec l'autre, qu'importe qui il est, en fait.
Et ben merci Claire et Laetitia d'avoir répondu à nos questions. Nous, on se retrouve après une petite pause musicale.
Ça. Si loin de mes antilopes, je marche tout bas. Marcher dans une ville d'Europe, c'est déjà ça. Oh, et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh, rêver c'est déjà ça, c'est déjà ça. Y a un sac de plastique vert. Dans cette chaise là-bas, ça fait sourire les passants, c'est déjà ça. Oh, et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh, rêver c'est déjà ça, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Déjà ça. Pour vouloir la belle musique, Soudan, mon Soudan, pour un air démocratique, on te casse les dents. Pour vouloir le monde parler, Soudan, mon Soudan, celui de la parole échangée, on te casse les dents. Oh, oh, et je rêve que Soudan, mon pays, soudain se soulève.
c'est déjà ça, c'est déjà ça. Je suis assez rue de Belleville, au milieu d'une foule, et là le temps est mon fil, cool. Oh, oh, oh. Et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh, oh, rêver c'est déjà ça, c'est déjà ça. Oh, oh, et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh, oh, rêver c'est déjà ça, c'est déjà ça.
De retour dans l'émission La Ligue et vous, avant de reprendre le thème principal de notre émission, passons tout de suite au Flash Asso, les nouvelles du monde associatif, présentées par Pauline Contessotto. Bonjour Pauline.
Bonjour. Alors on va commencer par l'association Mine de Culture, qui n'a pas sa langue dans sa poche. Le samedi 6 avril, elle organise à Libercourt le 4e Melting Pot, un festival qui s'articule autour d'actions qui promeuvent la découverte des langues. Une initiative en faveur de la diversité dans le bassin minier. Rencontres avec des artistes et des auteurs, mini-cours de langue, jeux et contes pour enfants, expositions, tout ça est au menu du Melting Pot. Rendez-vous donc le 6 avril de 10h à 19h, salle de l'Émolière à Libercourt. Depuis hier et jusqu'au dimanche 14 avril, se tient également le festival Théâtre à la ferme dans la région d'Audruy-Coislay-Plage. Ce temps fort pour les troupes amateurs de la région est co-organisé par le Centre de ressources du théâtre en amateur de la Ligue de l'enseignement Hauts-de-France et le comité de promotion économique et touristique intercommunal de la région d'Audruic. Cette année, une dizaine de troupes ont décidé d'entrer dans les fermes de la région d'Audruic pour captiver petits et grands autour de spectacles variés au milieu de chevaux, vaches, poules et autres animaux de la ferme. Si vous souhaitez participer à ce rendez-vous annuel désormais incontournable, rendez-vous mercredi 10, vendredi 12 et le week-end du 13 et 14 avril prochain. Réservation indispensable au 03 21 00 83 83. Attention à vous habiller chaudement, car il ne fait pas toujours très chaud sous les chapiteaux. Pour plus d'informations sur le programme et les tarifs, rendez-vous sur le site www.théâtrealaferme.fr. Et enfin, l'association Trèfle, que nous recevions le mois dernier dans La Ligue et vous, organise le mardi 26 avril un café signe de 18h à 21h au Rat-Perché à Arras. Pour rappel, l'association Trèfle est une association arageoise, qui a pour but d'informer sur la condition des sourds et malentendants et qui dispense des cours de langue de signes française. Le café signe sera l'occasion de se rencontrer et d'échanger autour de ce sujet. Rendez-vous donc le 26 avril de 18h à 21h au Rat-Perché à Arras.
Merci Pauline, on se retrouve tout de suite après une pause musicale.
Come gather round people wherever you are, and admit that the waters around you are cold. Accept that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming. You'll sink like a stone, for the times they are changing. Come mothers and fathers throughout the land, and don't criticize.
The line is drawn, the curse is cast. The slow one now will later be fast. The present now will later be past. The order is rapidly fading.
De retour avec nous dans La Ligue et vous. Pour intervenir lors du débat comment éduquer à la fraternité, la Ligue de l'enseignement du Pas-de-Calais avait invité Akli Tadjer à prendre la parole. Peut-être avez-vous entendu parler de cet auteur dont la mésaventure a défrayé la chronique en 2018. Souvenez-vous, Akli Tadjer, c'est cet homme de lettres qui avait vu un de ses textes refuser d'être lu par des lycéens. La raison, la présence dans l'extrait du prénom Messaoud ainsi que les origines de l'écrivain. Le débat a été, pour lui, l'occasion de présenter son nouveau livre « Qui n'est pas raciste ici ?». Le type de question trop directe que l'on pose rarement en société, sous peine de créer un malaise. En choisissant ce titre, l'auteur entend briser un silence coupable et enjoindre son lecteur à interroger son propre rapport au racisme. Nous aussi avions quelques questions à lui poser à ce sujet. Bonjour Monsieur Tadjer, vous êtes l'auteur du livre « Qui n'est pas raciste ici ?». La première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce qui se cache derrière ce titre, cette question aussi directe ?
Il se cache qu'il y a quelque temps, j'ai rencontré des lycéens d'un lycée de province, hein, parce que je suis parisien, donc c'est pour ça que je dis de province, qui avaient refusé de lire mon livre, au prétexte que l'auteur n'est pas français, que ce roman qui traite de la guerre d'Algérie ne les concerne pas. Vous savez pas que la France avait un passé colonial. Puis surtout, il y en a un qui voulait pas lire parce qu'il y avait un prénom arabe et pour lui, c'était trop, ça lui écorchait de la bouche de le prononcer. Alors, je suis allé les voir pour leur expliquer mes convictions et leur dire qu'à 17 ans et être déjà aussi raciste au fond, quoi. Et je trouvais que c'était une perte d'énergie qu'il ferait mieux de la passer ailleurs que de stigmatiser les autres. La première question que j'aurais posée, c'était ça. C'est qui n'est pas raciste dans cette classe.
Vous qui avez rencontré ces lycéens, à votre avis, de votre constat, qu'est-ce qui se cache derrière ce racisme ?
Mais c'est pas un racisme de hiérarchisation des peuples, c'est même ça se situe pas à là. Ça veut dire qu'ils ont peur des gens qui ne leur ressemblent pas, ils se sentent ni inférieurs ni supérieurs. Ils ne veulent pas des gens qui leur ressemblent. Et moi, je leur dis que rejeter ces gens, c'est entretenir la méfiance. Et la méfiance, on sait que ça mène à la violence. Et la violence, souvent, hélas, à la guerre. Et voilà. Je leur dis, vous n'avez pas d'énergie à perdre là-dedans. Faites votre vie, faites des choses positives. Ne soyez pas dans le noir, dans le négatif, dans la violence. Voilà, essayez d'aller vers l'autre. C'est ça qui est important, parce que le monde est de plus en plus individualiste et vous allez finir tout seul dans votre coquille à ressasser des vieilles lunes qui ne mènent nulle part. Voilà.
On est ici à la journée Fête la Fraternité organisée par la Ligue de l'Enseignement. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'accepter d'être intervenant lors de la conférence organisée aujourd'hui ?
Simplement l'intitulé « Éduquer pour la Fraternité », voilà, c'est... Ça dit tout, éduquer, c'est-à-dire qu'il faut faire l'effort d'apprendre aux plus jeunes le respect, la tolérance et la laïcité. C'est ça qui fait le truc. Et la fraternité, bon ben, le mot s'explique tout seul, il n'y a même pas d'explication, quoi. Le mot dit tout. Et c'est vrai que c'est pas forcément évident, mais il faut le faire parce que c'est aussi un peu mon métier. La fonction d'écrivain ne peut pas se résumer à écrire, noircir des pages du matin au soir. Il faut aller vers l'autre, sinon ça n'a pas beaucoup de sens, quoi.
Est-ce que c'est une conviction pour vous, le fait que la culture se mette automatiquement au service du vivre ensemble, de la fraternité ?
La culture, c'est essentiel. La culture, c'est le partage, c'est l'échange, c'est apprendre de l'autre, s'enrichir aussi de l'autre et puis aussi apporter sa part d'humanité et d'histoire, de culture et de vécu à l'autre. Et c'est comme ça que les choses vont avancer, sinon on court tous vers l'abîme, quoi.
Actuellement, dans nos médias, on met souvent en avant certains auteurs qui utilisent la culture au service plutôt de l'exclusion. que de la fraternité, je pense par exemple à Éric Zemmour. Est-ce qu'on doit ignorer cette culture ou est-ce que justement il faut aller au contact d'elle pour lutter contre les préjugés, contre la discrimination? Quel est votre avis là-dessus?
Bah, mon avis, c'est que, évidemment, je partage aucune idée d'Éric Zemmour, mais en fait, on s'aperçoit une chose, c'est quand même lui qui fait l'opinion publique. C'est-à-dire, c'est lui qui pose les débats. Il dit sa dernière marotte, c'était les prénoms. Pour lui, il a fait une fixette là-dessus. Mais en fait, ça, c'est un prétexte, l'histoire des prénoms. En fait, ce qu'il supporte pas, parce que le type qui s'appelle Rachid, Mohamed, ou la fille qui va s'appeler Zoubida ou Farida, demain, ça peut s'appeler Martine, ça changera pas son regard. Lui, ce qui la dérange, c'est pas ça. C'est qu'elle soit musulmane. C'est musulman qui dérange derrière. C'est pas les prénoms. Il en a rien à fiche des prénoms. Ils pourront s'appeler comme ils veulent. Pour lui, ils seront jamais vraiment des Français.
D'après vous, du coup, comment est-ce qu'on combat cette idéologie?
Ah, on combat on combat par la culture, hein, pour dire que les gens issus de la diversité, ils apportent aussi beaucoup à la France, au moins autant que lui, peut-être plus, et pas dans la haine.
De retour avec nous sur Radio Plus, une petite pause musicale.
On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était égaux, Lily. Au pays de Voltaire et d'Hugo, Lily. Mais pour Debussy, en revanche, il faut deux noirs pour une blanche. Ça fait un sacré distinguo. Elle aimait tant la liberté, Lily. Elle rêvait de fraternité, Lily. Un hôtelier rue Secrétan lui a précisé en arrivant qu'on ne recevait que des blancs. Elle a déchargé les cajots, Lily. Elle s'est tapé les sales boulots, Lily. Elle crie pour vendre des choux-fleurs. Dans la rue, ses frères de couleur l'accompagnent au marteau-piqueur. Et quand on l'appelait Blanche-Neige, Lily, elle se laissait plus prendre au piège, Lily. Elle trouvait ça très amusant, même s'il fallait serrer les dents, ils auraient été trop contents. Elle aima un beau blond frisé, Lily, qui était tout prête à l'épouser, Lily. Mais la belle famille lui dit, nous ne sommes pas racistes pour deux sous, mais on veut pas de ça chez nous. Elle a essayé l'Amérique, Lily, ce grand pays démocratique, Lily. Elle aurait pas cru sans le voir que la couleur du désespoir, là-bas aussi ce fut le noir. Mais dans un meeting à Memphis, Lily, elle a vu Angela Davis, Lily, qui lui dit, viens ma petite sœur, en s'unissant on a moins peur des loups qui guettent le trappeur. Et c'est pour conjurer sa peur, Lily, qu'elle lève aussi un poing rageur, Lily. Au milieu de tous ces gugus qui foutent le feu aux autobus, interdits aux gens de couleur. Mais dans ton combat quotidien, Lily, tu connaîtras un type bien, Lily. Et l'enfant qui naîtra un jour aura la couleur de l'amour contre laquelle on ne peut rien. On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris.
C'est la dernière partie de cette émission sur Radio Plus. Le temps de dresser un petit bilan de la semaine de la fraternité. Michael Caron, est-ce que vous voudriez dire quelques mots sur la journée éduquée à la fraternité qui s'est déroulée le 26 mars?
Oui, juste quelques mots. Ben, c'est une journée merveilleuse. D'abord, la découverte d'un lieu, la fabrique à Béthune, un lieu dédié à l'économie sociale et solidaire, donc abrité dans un ancien bâtiment de la Chambre de commerce et d'industrie. Et puis le contenu en lui-même avec deux temps forts, notamment le matin la table ronde avec notamment Ali Tadjer qu'on a pu entendre dans l'interview qui a précédé. mais aussi un représentant de l'association Racine, une association marocaine qui organise là-bas les états généraux de la culture. Et enfin, Bruno Lajara, très connu au sein de la Ligue Enseignement et en dehors, puisqu'il est le fondateur et le directeur de l'association Envol, un centre d'art et de transformation sociale qui œuvre auprès des jeunes décrocheurs à travers le théâtre. D'ailleurs, dernièrement, on a pu voir un reportage sur TF1 sur l'action de l'association Envol. Et justement, l'après-midi, ce fut dédié à une représentation de plusieurs jeunes de différentes classes de l'association Envol. Et là, je dois dire que j'ai pris une claque parce que...
Il y a eu beaucoup de larmes dans la salle.
Oui, oui, c'était très, très émouvant. D'abord, très bien joué. Très 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 bien joué par tous ces jeunes et avec une rage au ventre et au cœur, et je pense que ça a laissé une empreinte dans tous les cœurs des gens qui étaient venus assister à cette journée départementale éduquée à la fraternité.
Quel bilan on peut dresser de la semaine de la fraternité?
Un excellent bilan. Ce fut la 8e édition. Je me souviens de la première édition où on débutait et ce fut dur. Ce fut dur et au fur et à mesure, avec une politique volontariste décidée par les élus de la fédération départementale, on a connu une ampleur continue de cet événement. Et cette année, il y a eu 165 initiatives avec 250 partenariats de nos associations affiliées, bien sûr, mais des collectivités territoriales, aussi du monde de l'éducation nationale et autres. Et donc, nous, à la Fédération des départementales, le conseil d'administration est très satisfait de ce qui s'est produit pour la 8e édition. Et on voudrait remercier tous les salariés et de la Ligue de l'enseignement, notamment M. Ali Amnash, délégué vie fédérative, mais aussi Sébastien Bréhoul pour son action, et tous les bénévoles de toutes les associations qui ont pris du temps pour préparer aussi, pour appliquer tous leurs projets. Et je pense que maintenant, on travaille pour la 9e édition pour 2020, mais avant, il y aura, au mois de décembre, la semaine départementale de la laïcité. Et d'ailleurs, d'ici quelques semaines, on entamera la préparation de cet grand événement départemental de la Ligue de l'enseignement du Pas-de-Calais.
Merci Michael Caron d'avoir été avec nous tout au long de cette émission et d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de La Ligue et vous. À bientôt.